Avec François Beauregard.
De retour, il est maintenant 13h et 13h, bien c'est la revue de presse et nous avons le plaisir d'accueillir cette saison notre recrue de l'année, Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Parlez-nous un peu de vous. Qu'est-ce qui vous amène ici?
Je suis professeure en sciences politiques, donc j'ai un doctorat en sciences politiques internationales de l'UQAM. Je suis donc chargée de cours et je suis aussi une personne qui fait de la recherche, puisque ça vient avec un doctorat, et je suis maintenant nouvellement chroniqueuse.
Ah ben bravo! Et en sciences politiques, quels aspects du monde vous intéressent davantage? La coopération internationale, la géopolitique?
Je travaille en coopération internationale et en migration. Je travaille aussi sur le racisme. C'est surtout sur ça que je porte mes recherches.
Ben ça, c'est trois sujets qui sont qui sont tous les jours dans l'actualité.
Oui, voyage, je ne manque pas de travail, c'est aussi.
D'une façon ou d'une autre. De façon anecdotique, j'ai fait mon cours en sciences politiques à l'université, mais vous n'étiez pas de ce monde encore. Voilà. On revient aujourd'hui. On va faire le tour du monde ensemble. On parle d'abord de l'Union européenne.
Oui, l'Union européenne qui a un projet pilote qui est dans 8 pays en ce moment, dont en Belgique. Un projet pilote pour une carte attestant du handicap qui serait une carte donc qui est valide dans tous les pays de l'Union européenne. Cette carte-là offrirait donc des conditions spéciales pour une meilleure égalité, un traitement préférentiel ou un accès gratuit ou prioritaire à des tarifs réduits ou à des assistants quand on a besoin d'assistants à cause d'un handicap. Donc, ce qui est spécial avec cette carte-là, c'est qu'avant, les pays avaient chacun leur carte.
Oui, chacun leur système. Ouais.
Chacun leur système. Et quand on voyageait donc dans les pays de l'Union européenne, c'était difficile. Ça pouvait devenir difficile pour des personnes en situation de handicap de faire valider leur handicap et de prouver leur handicap parce que leurs documents n'étaient pas acceptés dans le pays d'à côté.
Puis souvent, le handicap aussi peut être invisible.
Oui.
Alors, ça peut créer une autre barrière. Les personnes qui nous accueillent à la frontière, au musée, à l'hôtel, à la gare, ils comprennent pas ce qui nous arrive. Alors, cette carte-là va être en fait une identification pour toute l'Europe.
Oui.
Du handicap. Et on espère va ouvrir les mêmes portes partout. Hein? C'est ça qui
se passe. C'est ce qu'on essaie de faire, en fait. Donc, pour l'instant, ce n'est seulement qu'un projet pilote, comme je le disais, donc dans 8 pays. Mais si ça fonctionne bien, on espère, donc, du côté de l'Union européenne, de rendre ça plus universel pour que les personnes en situation de handicap, qu'elles soient visibles ou non, aient une meilleure chance au niveau de l'égalité, puis un meilleur accès universel aux lieux touristiques et aux autres lieux des pays dans lesquels ils voyagent.
En fouillant un peu plus, on s'aperçoit que cette proposition-là auprès de la Commission européenne, c'est pas d'hier, parce que ça fait déjà 13 ans que le Forum européen des personnes handicapées avait déjà commencé à demander une telle intégration au Parlement. Alors, ça prend 13 ans, c'est long.
Oui, c'était pas prioritaire, là, malheureusement, là, pour l'Union européenne qui a des dossiers très chauds à gérer. C'est quand même un long combat donc qui commence à porter fruit parce que pour les personnes sans handicap, effectivement, là, au jour le jour, au quotidien, ça peut devenir difficile de voyager entre les pays alors que leurs documents ne sont pas acceptés d'un pays à l'autre.
Exact. Le Forum européen des personnes handicapées, à fin de référence, là, c'est un organisme européen justement qui est relié à la structure pan-européenne qui rassemble plus de 100 organisations et près de 80 millions de personnes en Europe. En fait, c'est la plus importante voix ou représentation des personnes en situation de handicap en Europe. Là, hein? Et leur slogan, c'est « Rien à notre sujet sans nous ». Voilà, alors ça veut dire consultons en amont. Hein? Alors, on espère avoir des nouvelles, de voir comment cette... Et on peut dire que chez nous aussi, en fait, il y a toutes sortes de petites cartes qu'on peut présenter.
Oui, mais on n'a pas la carte, effectivement, qui est universelle.
Exact.
On a toutes sortes de documents médicaux, non médicaux. Dans certains cas, ça devient difficile. Donc, effectivement, c'est un projet duquel on pourrait s'inspirer ici.
Oui. Comme moi, j'ai ma carte INCA. Mais des fois, les gens regardent ça un peu de travers en se demandant ça vient d'où, est-ce qu'il a fait ça chez lui, comme ça.
Oui, voilà. Ouais, oui.
Voilà, ou je sais pas, dans d'autres situations d'handicap, on n'a pas nécessairement...
On n'a pas de carte. Comme moi, j'ai ma carte de Mira, bien sûr, pour mon chien d'assistance. Mm-hmm. Mais je n'ai pas de carte qui prouve mon handicap à moi. Mm-hmm. Et les personnes autistes ou les personnes avec une déficience intellectuelle n'ont pas non plus de carte pour prouver. Donc, si tu as besoin de services, tu te fies à la bonne volonté de la personne devant toi. Et parfois, ces personnes-là ont peu de connaissances, donc ça peut effectivement mener à des discriminations.
Ou à des erreurs tragiques. En parlant de discrimination ou d'erreurs ou d'exclusion, c'est le retour en classe en France.
Oui, c'est le retour en classe en France. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap là, qui n'ont pas accès à l'école, même si... par la loi, tous les enfants devraient être scolarisés. Par contre, en France, il y a beaucoup d'élèves qui ont des besoins particuliers qui n'ont pas accès à des classes par manque de personnel et par manque d'adaptation des locaux aux besoins spéciaux des enfants. Donc, il y a quand même énormément d'enfants qui ne sont pas scolarisés à l'heure actuelle, même si les classes ont commencé depuis plusieurs jours en France.
Mais on peut supposer que si les classes ont recommencé puis ils ne sont pas scolarisés maintenant, c'était la même affaire l'an dernier. Alors, donc, à chaque année, il y a un déficit de scolarisation qui, pour le même enfant, évidemment, ben là, ça fait boule de neige puis ça crée des retards énormes qui vont être difficiles à rattraper. L'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, c'est le nom de l'organisme, l'UNAPI, qui regroupe près de 900 personnes en France, 330 associations un peu partout en France. On fait une étude de fait qui auprès de 2100 enfants pour voir un peu quel était le taux de scolarisation ou leur participation à l'école. Et ça a donné des résultats qui étaient navrants.
Oui, on parle donc dans 6 régions de France. Résultat, 23% de ces enfants, donc c'est énorme, qui n'ont aucune heure de scolarisation par semaine. Donc, près du quart qui n'en sont pas capables du tout d'atteindre l'école. Et donc, quand on parle de non-scolarisation, effectivement, on parle aussi d'aucun accès à la matière scolaire, sauf selon la bonne volonté et la capacité des parents qui souvent ont des emplois à temps plein, hein, mais qui doivent quand même essayer de gérer les enfants qui restent à la maison. Donc, on parle quand même de 23%. On parle de 28% qui auraient 6 heures ou moins et 22% qui auraient de 6 à 12 heures par semaine. Donc, c'est quand même énorme. On parle d'une grande majorité qui ne sont pas du tout, même pas à 50% des heures normales de scolarisation en France. Et on est en 2023.
Oui. Tout à fait, oui. Il y a encore beaucoup de rattrapage à faire. Le ministère français responsable des situations des personnes en situation de handicap nous indique que quand même le taux d'enfants ayant accès à l'école a augmenté, bravo, au cours des dernières années, là, de presque 34 % sur 6 ans. Mais et à la Conférence nationale du handicap, dont on avait parlé ici d'ailleurs en onde, le gouvernement Macron s'était engagé, je dirais, à implanter une centaine d'instituts médico-éducatifs au sein des écoles, c'est comme un pas dans la bonne direction, mais ces chiffres-là que vous venez de mentionner, ça fait peur. Il y a encore beaucoup de place.
On parle de projet pilote, effectivement, là, pour mettre des institutions médico-éducatives au sein des écoles. Par contre, on n'a pas vraiment, outre la bonne volonté du gouvernement, comme vous en parliez, François, on n'a pas vraiment d'idée au niveau des financements de ça, au niveau de la façon dont ça va fonctionner. Donc, pour l'instant, c'est un beau projet. On en parle, mais on n'a rien de concret. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une grande majorité d'enfants en situation de handicap en France qui ont des difficultés à entrer à l'école.
Et on parle des trois quarts là, qui sont en bas de 12 heures de scolarisation par...
À tout le moins dans l'étude là, de 2100 enfants, mais on peut croire que c'est échantillon, donc est représentatif. C'est un problème qui se retrouve un peu partout en France.
Tout à fait. Traversons les Alpes, hein, et allons en Suisse.
Allons en Suisse. On parle d'une bataille judiciaire pour faire reconnaître la vulnérabilité des aînés face au changement climatique. Donc, il y a un groupe d'aînés qui ont pris en charge cette bataille-là parce que justement, ils trouvaient que les politiques gouvernementales étaient trop peu adéquates pour la gestion des GES, donc des gaz à effet de serre, et demandent au gouvernement de Suisse de revoir ces... de revoir ses cibles, oui, à la hausse,
oui.
Pour être capable de réduire plus drastiquement les GES et de reconnaître aussi la vulnérabilité des personnes aînées face au changement climatique. Donc, c'est un groupe de personnes âgées qui ont décidé donc d'aller en cours pour faire entendre leur mécontentement et faire entendre leurs préoccupations par rapport à ça.
Parce que c'est vrai que quand on voit des annonces suite à des vagues de chaleur, je pense à il y a quelques années, entre autres en France, ou dans les résidences pour personnes âgées, il n'y avait pas de climatisation. Les gens mouraient là, par centaines, par milliers. Les femmes sont plus encore vulnérables, oui, que les hommes aux excès de chaleur et des choses comme celle-là. Alors, de voir des groupes de femmes suisses qui se lèvent, se font entendre et s'expriment là-dessus, c'est une excellente chose et ça demande beaucoup de volonté parce que souvent, les personnes âgées, d'autant plus si elles sont femmes, sont regardées de haut un peu, hein, sur la scène politique. Bravo.
Et ces femmes-là se sont quand même rendues à la Cour européenne des droits de l'homme et on devrait avoir un jugement de cette Cour d'ici la fin de l'année. Donc, elles ont quand même pris des dispositions importantes pour se faire entendre.
Exact. Puis ça peut, à ce moment-là, créer une obligation.
Ça créerait un précédent, en fait. Donc, effectivement, une obligation du gouvernement d'agir et également un précédent qui aiderait d'autres personnes qui veulent faire entendre sur des sujets qui sont... De la même portée, dans les mêmes dossiers, dans le même type de demande.
Exactement. Alors, on va suivre ça de près parce que c'est sûr qu'on se fait une idée pittoresque de la Suisse, mais il n'en demeure pas moins que le réchauffement de la planète, c'est vrai là-bas aussi.
Oui, et c'est encore plus vrai en Europe. L'Europe se réchaufferait deux fois plus vite que le reste du monde.
Que le reste de la Terre, que le reste de la planète, oui, tout à fait. Alors, tout à fait. D'à propos, disons ça. On revient de ce côté-ci de l'Atlantique brièvement à l'Université John Hopkins au Maryland.
Oui, en fait, où il y a une étude qui dure depuis une dizaine d'années qui a montré que la perte auditive contribue au déclin cognitif et au risque de démence. Et donc, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est des interventions pour avoir des appareils auditifs et des services d'assistance auditif. Si les appareils auditifs et les services d'assistance donc réduiraient le risque de démence sur les personnes âgées. Donc, c'est un professeur de médecine gériatrique qui a fait cette découverte-là. Donc, effectivement, j'ai suivi des patients là, sur une dizaine d'années, et s'est rendu compte qu'effectivement, ouais, ceux qui avaient de l'aide auditive, donc à des appareils auditifs, entre autres, développaient moins de démence que les autres. Et donc, on pense croire qu'il y a un lien entre les deux. Comme je le disais, c'est une étude, donc il va falloir creuser, mais ça montrerait donc qu'effectivement, le manque d'ouïe et les problèmes auditifs créeraient un précédent pour la démence, ce qui s'explique entre autres par le fait que les personnes en perte auditive ont moins de contacts sociaux,
oui,
évidemment, parce qu'ils entendent moins,
oui,
ils ont plus d'isolement, ils ont donc moins de stimuli autour d'eux, et c'est ce qui favoriserait donc un début de la démence ou à tout moins des pertes
des
cognitives.
Des conditions favorables
à la perte de capacité cognitive.
Exact, tout à fait. Alors, évidemment, c'est une étude qui est sur un groupe de 977 patients, patientes âgées en moyenne de 76 ans, mais c'est quand même sur une période de 10 ans. Alors, c'est quand même un suivi qui...
C'est un suivi serré et qui donne des résultats, donc qui sont quand même, je ne sais pas si je dois dire, encourageants.
Oui, mais c'est probable.
À leur façon, voilà. Il va falloir, bien sûr, continuer à suivre ça, mais il y aurait un lien, donc, entre la perte auditive et la démence. Et donc, si on reconnaît ce lien-là et qu'on est capable de l'expliquer, de le comprendre, on pourra mettre en place différents dispositifs, différentes stratégies pour réduire la démence de ces gens-là et pouvoir prévenir la démence chez les personnes âgées.
Oui, parce que la population vivant plus longtemps, les questions de démence, Alzheimer ou autre, là, ça devient un sujet de santé publique là, qui est vitale.
Hein? Oui, parce qu'effectivement, ça coûte cher au niveau du gouvernement. C'est très lourd aussi pour les aidants naturels. Oui. Et quand on n'a pas d'endroit où pour aider ces gens-là, quand on n'a pas assez de services, bien effectivement, ça devient un problème de santé publique. Donc, si on peut pallier à ça et le voir venir plus facilement, bien, on pourra trouver des solutions pour être capable donc de limiter la démence. Et pertes cognitives, et à ce moment-là, être capable d'avoir des meilleurs services pour ces gens-là.
On va parler un peu de 2024, hein, dans une perspective sportive. Voici le coin des sportifs. À Paris, il va y avoir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. C'est comme presque dans 362 jours d'ici.
Oui.
Exact. Alors là, il y a une question de préparation de toutes les installations et la logistique pour que ce soit des jeux accessibles.
Oui, d'abord parce que les jeux, donc, on retrouve les spectateurs alors qu'à Tokyo et à Pékin, aux derniers Jeux paralympiques et olympiques, il n'y avait plus de spectateurs étant donné la COVID-19. Ouais. Et on retrouve l'accessibilité, donc, des lieux aux spectateurs, ce qui demande aussi donc une accessibilité qui est universelle pour les personnes en situation de handicap qui voudraient vivre les Jeux de l'intérieur. Donc, il y a des personnes qui se sentent un peu inquiets, entre autres l'association AFP France Handicap, qui de leur côté ont dit que non seulement les lieux doivent être adaptés, ce que le comité olympique a réitéré, donc que les lieux seraient 100% adaptés pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir et accès assister, à tous les lieux. Par contre, l'association donc France Handicap parle aussi qu'il va falloir mettre l'accent sur les questions d'accessibilité des transports publics, donc entre autres l'avion, parce que les gens qui veulent se déplacer pour Paris pour aller voir les Jeux olympiques, c'est bien beau d'avoir des sites qui sont accessible. 100% accessibles et adaptés. Encore faut-il être capable de se rendre.
Oui, c'est beau que le stade soit adapté ou que le lieu de compétition soit adapté, mais si on n'est pas capable...
Si on reste pris dans l'aéroport, on n'est pas plus avancé.
Oui, voilà, exact. Puis c'est parce que ça oblige toute une réflexion sur l'accessibilité en allant en amont.
Oui, à grande échelle.
Exact. Si le stade est adapté, c'est super. Mais si on ne peut pas se rendre au stade, si on ne peut pas se rendre dans la ville...
Et avoir accès donc aux hôtels, aux restaurants et à tout le reste.
Voilà, parce que c'est toute une machine touristique. Là. On est certain que les athlètes paralympiques auront droit à une accessibilité universelle. Mais qu'est-ce qui arrive avec le commun des mortels qui veut simplement assister à une compétition? Puis là, l'organisation promet... Hein? que tout sera en place, mais on sait ce que c'est à un an des Jeux olympiques, là, tout d'un coup, le temps presse, puis il y a peut-être des coins qui vont être un peu ronds.
AFP France Handicap là, évoque de graves dysfonctionnements quant à l'accueil et à la prise en charge des voyageurs, entre autres dans les aéroports, et à prise en charge d'appareils d'aide à la mobilité, comme les fauteuils roulants. On pense que ça serait difficilement accessible, même si, comme vous le disiez, François, c'était beaucoup plus facile, donc... Je vais reprendre la phrase. Donc, même si le comité olympique dit que effectivement ça va être travaillé, à un an des Jeux olympiques, en ce moment, ça devient très difficile. On n'y est pas encore. Voilà.
Ben, on va faire une pause musicale, puis on va revenir tout de suite après pour notre partie Québec/Canada, puis on va parler justement d'aviation et de fauteuils.
Oui!
Vince Guaraldi, qui nous interprétait Ginza Samba. Voilà. Vous connaissez peut-être Vince Guaraldi parce que c'est lui qui est l'auteur de toutes les pièces de piano reliées au dessin animé Peanuts, Charlie Brown, qu'on a vu plein de fois à la télévision quand on était plus jeune. Voilà. Revenons au Canada, mais on revient en avion, si vous voulez bien, Lisanne, parce que là aussi, il y a une nouvelle toute fraîche.
Oui, on revient en avion parce que Tim Rose, qui est un Torontois, a gagné sa cause contre...
Air Canada,
oui, à l'Office des transports du Québec. Il avait fait une plainte car son fauteuil roulant et avait été refusé dans un avion d'Air Canada parce qu'il était surdimensionné. Donc, Air Canada avait refusé d'embarquer le fauteuil roulant qui était fait sur mesure pour les besoins de M. Rose. Donc, à ce moment-là, M. Rose, qui s'en allait à Cleveland, a dû faire le chemin en voiture parce que Air Canada a refusé d'embarquer son appareil, donc son fauteuil roulant, à l'intérieur de l'avion. On parle quand même d'un chemin qui fait un peu plus de 5 heures de route.
Oui, tout à fait. En parlant de 5 heures de route, il faut aussi parler qu'il s'agit d'un combat de 7 ans pour voir à ce que ses droits soient reconnus.
Oui, ça a été
c'est un chemin encore plus long.
Ça a été très long pour M. Rose, effectivement, parce que forcément, là, l'Office des transports du Canada et tout ce qui a entouré ça, ça a été des batailles judiciaires qui ont été très longues. Et il faut, à ce moment-là, qu'un juge se penche sur la question de jusqu'à quel point une compagnie d'aviation donc est responsable d'offrir des aménagements à des personnes en situation de handicap, malgré donc ses propres normes à elle au niveau de ses avions et pour toute la question de la sécurité aussi des passagers et de l'équipement. Donc, ce que l'Office des Transports du Canada a dit, c'est qu'au final, la compagnie aérienne se doit de trouver une solution. Si la solution n'est pas possible le jour même, se doit de trouver une solution pour la veille ou pour le lendemain du jour où le voyage était prévu. Donc, en tous les cas, ça veut dire que c'est vraiment 100% la responsabilité de la compagnie de trouver une façon de transporter les fauteuils roulants et les autres équipements médicaux ou de transport des personnes en situation de handicap qu'il soit ou non dans les normes établies
de bagages.
L'équipe d'aviation. Oui,
ouais, exact. Puis, parce que dans ce cas-ci, on parle quand même de délai raisonnable de la part de M. Rose qui a acheté son billet d'avance, ainsi de suite, puis qui a averti la compagnie aérienne.
Oui, effectivement, donc il avait averti là, 3 mois à l'avance. Et c'est effectivement ce que l'Office des transports du Canada dit. Donc, s'il y a eu un avertissement à l'avance dans les 3 mois, la compagnie se doit de trouver des solutions.
Une solution. Et ça peut vouloir dire changer d'appareil ou des choses comme celle-là, mais... si M. Rose va aller aux Paralympiques à Paris, voilà.
Voilà, et donc, effectivement, là, la compagnie aérienne doit trouver un billet avec une autre compagnie si sa propre compagnie ne peut pas accueillir M. Rose ou n'importe qui dans cette situation, ou même elle-même, donc changer ses pilotes et prendre un autre appareil, donc sous-louer un appareil s'il le faut. Mais en tous les cas, il faut que la personne soit transportée donc dans des délais raisonnables, soit la veille, soit le lendemain, étant donné les besoins de la personne.
Ben voilà, et ça donc, ça va être un jugement qui va faire...
Qui va faire jurisprudence.
Tout à fait, et sur lequel d'autres personnes dans la même situation pourront s'appuyer. Évidemment, on est certain que ça doit grincer des dents quelque part. Parlons de transport. Il y a un truc qui revient beaucoup à la mode de ce temps-ci, et moi je dis, personnellement, si j'avais la capacité de pouvoir me promener en trottinette électrique, j'aimerais bien ça. Ça a l'air vraiment le fun.
Oui, moi aussi, j'aimerais bien.
Ça a l'air
moi non
vite,
plus, c'est pas...
C'est plaisant.
C'est pas du tout dans mes cordes.
Non.
Par contre, c'est dans les cordes de plusieurs Montréalais.
Mais ça a vraiment l'air le fun, la trottinette électrique, par exemple, mais il faut l'encadrer.
Oui, donc Québec autorise la circulation des trottinettes électriques dans les rues où la vitesse est de 50 km/h ou moins. Les trottinettes doivent circuler dans la piste cyclable quand ce n'est pas le cas. Par contre, ça pose des questions au niveau de la sécurité des piétons et particulièrement donc de la sécurité des piétons qui ont une situation d'handicap, par exemple les personnes qui sont malvoyantes.
Parce que les trottinettes font pas de bruit.
Les trottinettes ne font pas de bruit, effectivement. Donc, on ne peut pas les entendre arriver. Et ça cause des problèmes au niveau de la sécurité. On peut percuter des gens et les personnes qui n'ont pas une bonne vision pourraient ne pas venir voir l'obstacle. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut voir et il faut prévenir.
À Montréal, parce qu'à Montréal, ils pensent réintroduire les trottinettes électriques
C'est réintroduit, cet été sur l'île Saint-Étienne comme projet pilote. Ouais. Et là, on veut le réintégrer sur le reste de Montréal. Et donc, il faut s'occuper de ça et voir à quel point, qu'est-ce qu'on va faire pour être capable de favoriser la bonne entente et éviter les accidents.
Tout à fait. Ah, puis pour avoir été en Europe, il n'y a pas très longtemps, dans des villes où les trottinettes électriques étaient en usage... totalement libre et non réglementé, là, c'est un petit peu hallucinant de se promener dans une ville où déjà il y a beaucoup de mobylettes, mais les mobylettes, on les entend venir. Les trottinettes électriques, là, c'est comme une autre paire de manches. Ben voilà, ça va être tout pour aujourd'hui, Lisanne. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et je ne peux pas m'empêcher de saluer Norton, qui est une bonne bête d'accompagnement qui est juste ici près de nous en studio.
Il n'est pas très bavard, mais il est très gentil.
Il fait son travail. Merci,
voilà,
Norton. Voilà. Merci à Claire Guérin aussi à la recherche. On recommence à une nouvelle saison ensemble. Mathieu Tessier à la technique. Et on vous dit à la semaine prochaine, midi.